Les rencontres d'Edmond Morel. Véronique Biefnaud, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier roman en date. Le premier tome, puisque vous avez l'habitude d'écrire en plusieurs volumes, d'un roman intitulé « Eli Howe, l'animal-terre ». Eli Howe est le nom du personnage, du narrateur. Alors, l'animal-terre, je vais vous laisser dire ce que l'on peut en dire sans trop dévoiler du roman.
C'est difficile. Bon, évidemment, l'étymologie parle un peu d'elle-même. On a la racine animale et puis on a alter. Hein. Donc, est-ce que cet alter est un autre ou est-ce que c'est l'alter ego ou est-ce que bon, voilà. Donc ça parle de métamorphose. Ça parle de transformation du corps, mais surtout de l'âme en fait. Et ce personnage, Eli Howe, va traverser sans dans un premier temps les comprendre et surtout sans pouvoir du tout les dominer, il va traverser toute une série de transformations.
Alors, ces transformations sont assez spectaculaires puisque animal-terre, il se vit en animal, il se transforme en certains animaux dont il devient la voix intérieure, il est le narrateur sous la forme d'un chien, d'un serpent,
d'un chat, d'un condor.
Alors, comment est venue l'idée de prendre la parole au nom de ces animaux-là et la manière de les écrire?
Bien, les animaux ont toujours été omniprésents dans ma vie depuis toujours. J'ai grandi à la campagne et le spectacle de la nature, des arbres, des animaux, a toujours été pour moi quelque chose d'extrêmement à la fois apaisant et vivifiant, aussi susceptible de m'ouvrir des tas de questionnements sur ce qui se passe dans le regard d'un animal. Et j'ai constaté, puisque celui-ci est mon quatrième roman, que l'écriture nous apprenant des choses sur nous-mêmes, j'ai constaté que les animaux étaient finalement, et la nature était omniprésent dans mes romans, qui pourtant ne se passent pas nécessairement à la campagne. Enfin, c'est visiblement une part très constituante de ce que je ressens. Alors, animal-terre, c'est un peu pousser ça à l'extrême, puisque le personnage passe à travers le corps de ces différents animaux. Et j'ai pris un plaisir énorme à me mettre dans la peau de ces animaux chaque fois et de les ressentir à la fois avec le regard extérieur de l'observateur, en employant un profil narratif et à la fois à l'intérieur avec les sensations que peuvent leur procurer ce corps étranger finalement, nouveau avec toutes ses particularités suivant l'animal qu'on traverse.
Oui, alors il y a différents, effectivement, il y a deux volets dans le fil narratif. Le point de vue du narrateur lorsqu'il est animal, et puis le point de vue omniscient, la troisième personne, lorsqu'on voit de l'extérieur ce que l'animal a été amené à faire. Alors, c'est un roman qui est un roman initiatique, d'une certaine manière, puisque Eli Howe est un personnage qui s'interroge sur ce que sa nature, ses différentes natures, le conduisent à faire. Dans quelle mesure est-ce que la part d'initiation dans le roman a prévalu au moment de l'écriture ?
Bah évidemment, au-delà de la première approche qui est celle-là un petit peu ludique et spectaculaire de la description et de la traversée des univers de tous ces animaux, il y a évidemment la métaphore de l'adolescence. L'adolescence étant une période absolument fascinante, je crois, pour tout le monde et fort probablement pour toute personne qui s'essaye à l'écriture. L'adolescence, c'est vraiment le moment où tout est en germe, à la fois tous les espoirs, tous les questionnements. Et cette histoire est effectivement une métaphore de toutes ces métamorphoses qu'on traverse avec plus ou moins de difficultés au moment de l'adolescence, qu'elles soient visibles, c'est-à-dire physiques, ou qu'elles soient mentales, ou qu'elles soient morales ou politiques. C'est l'âge et la période de la vie où tous se mettent en branle pour trouver l'un ou l'autre sens. Et je trouve cette période absolument fascinante. Alors la métaphore animale, évidemment, me permet de lui donner différents visages. Maintenant, au-delà de ça, ce personnage, Ellie Hall, dans ce premier tome en tout cas, se sent absolument manipulé par il ne sait pas quoi, et incapable de résister à cette instrumentalisation. Et c'est bien là son problème durant toute cette histoire-là, parce qu'il est amené à faire des choses qu'il regrette le lendemain, parce que les nuits sont... Le roman est très rythmé, hein, on a chaque fois un jour, une nuit, un jour, une nuit. Les nuits sont des périodes, entre parenthèses, des périodes d'accalmie, où il a un regard sur ce qu'il a fait durant la journée, et ça va de Caribe en Scylla, c'est une catastrophe, et il ne sait pas juguler ses instincts qui le manipulent.
Alors, on va donner un exemple pour que ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le livre puissent se rendre compte de ce dont nous parlons, pour ne pas entrer dans une sorte de dialogue d'initiés qui ont lu le livre. Par exemple, l'exemple du serpent. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce qui arrive à ce serpent qui, à un moment donné, en arrive à vouloir mettre fin à ses jours ?
Ce serpent... tout d'abord, la petite anecdote, cette histoire du serpent est une histoire qui m'est arrivée. C'est-à-dire, je n'étais pas serpent. Malheureusement, j'aurais bien aimé. J'étais en randonnée en montagne et j'étais en train d'escalader. C'est-à-dire, j'étais en train de vivre un peu ce que vit le pauvre gars qui se retrouve face à ce serpent. Enfin, pauvre gars, tout est relatif, mais pour ça, il faut un tout petit peu lire l'histoire. Donc, ça, il m'est arrivé, voilà, en faisant de l'escalade et en perdant l'équilibre, de me raccrocher à une pierre plate. Sous cette pierre plate, il y avait un nid de serpent. Et j'ai donc tout naturellement, pour retrouver mon équilibre, planté la main dans ce nid de serpent. Et les serpents sont partis, m'ont longé le corps, puisque j'étais plaquée contre la paroi. Hein. Et il y avait tout autour de moi des broussailles. Bon. Et c'est une expérience, donc, bon, pas très intéressante, mais enfin qui m'a marquée personnellement, où je suis restée un certain temps tétanisée sur cette paroi. Alors, ces serpents, qu'étaient-ils ? Ça se passait dans les Alpes, en France, donc probablement des couleuvres, mais l'histoire ne nous le dira jamais. Peu importe, d'ailleurs. En tout cas, ils ne m'ont pas fait de mal, mais j'étais quand même tétanisée, parce que, voilà, le rapport avec l'animal sauvage, et a fortiori le serpent, qui est quand même très porteur de tout un tas, on lui colle tout un tas de symboles et de pouvoir, c'est fort. Voilà, donc c'est une petite anecdote personnelle qui m'a donné... l'ébauche de cette histoire. Maintenant, dans Mon animal terre, c'est beaucoup plus lourd de sens, puisque le personnage qui se retrouve face au serpent va mourir. Le serpent va provoquer la chute et la mort de ce personnage. Parce que, évidemment, c'était beaucoup plus amusant d'amplifier les choses, et le romanesque nous permet ça, on ne va pas s'en empêcher. Au lieu de se passer dans les Alpes et face à une vipère ou une couleuvre, c'est carrément un mamba noir. Hein. Donc le grimpeur avait peu de chances d'y échapper.
On découvre d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas bien les familles des serpents, ce qu'est le mamba noir, qui est un redoutable animal.
Un magnifique animal est absolument redoutable, et quand on subit une morsure de mamba noir, on a peu de chances d'y résister.
Alors, mais ce mamba noir, à un moment donné, et c'est là où je pense, enfin, la lecture que j'ai faite de votre livre mérite, me semble-t-il, d'être un peu plus élargie que le simple roman sur l'initiation à laquelle conduit l'adolescence. Cela figure dans la quatrième de couverture, et j'ai trouvé que c'était très réducteur comme approche de votre livre, parce que dans cet exemple-là du serpent, j'ai trouvé qu'on se trouvait confronté davantage à un questionnement philosophique sur le déterminisme, sur la liberté de choix, sur la responsabilité de décider pour soi ou d'être mené par son instinct. C'est finalement la question que se pose ce serpent au moment où il décide de se suicider, le suicide étant aussi la question philosophique par excellence, comme le disait Camus.
Oui, bien sûr, c'est ce qui sous-tend toute l'histoire, ce fameux déterminisme. Lui se sent incapable de lutter contre ça, contre ce scénario qui semble avoir été établi à l'avance. Et même le suicide lui est interdit. Il ne réussit pas, donc il n'a vraiment aucune porte de sortie. Alors maintenant, le rapport à l'adolescence, c'est aussi parce que c'est un livre, je dirais tout public, contrairement aux autres romans que j'ai pu écrire, en tout cas les deux premiers, comme Des larmes sous la pluie et Les murmures de la terre, qui ne sont, je pense, pas du tout des romans jeunes publics. Je pense qu'on peut les aborder à partir de 17 ans peut-être, quelque chose comme ça, mais sûrement pas avant. En revanche, celui-ci, l'animal terre, je crois, a vraiment différents niveaux de lecture. Et j'ai autour de moi des enfants de 10, 11, 12 ans qui l'ont dévoré, s'arrêtant probablement à l'aspect aventure, métamorphose, animaux, etc. Des adolescents qui y ont, pour leur part, vu voilà, cette dimension, oui, ben, je m'y reconnais pas mal. Et puis des adultes qui y mettent forcément une autre charge.
Il y a un autre élément dans le roman, dans la lecture, non pas la lecture adolescente, mais peut-être une lecture plus large, c'est l'importance dans la prise de conscience du narrateur du contact, de la rencontre avec l'autre, qui est incarné par un magnifique personnage, qui est une vieille dame, une clocharde. Et là, vous avez réussi un portrait extraordinairement émouvant, attendrissant, bouleversant d'une vieille dame dont je vous laisse dire où elle vit si vous souhaitez qu'on le sache.
Oui, bah oui. Enfin, de toute façon, je pense que j'espère en tout cas que la lecture, même si on connaît certains tenants et aboutissants, j'espère que la lecture en elle-même est agréable. En tout cas, c'est ce que j'ai souhaité. Cette vieille dame, Gabi, oui, elle me plaît beaucoup aussi. Mais les deux me plaisent. Elio est un personnage que j'aime énormément. Et Gabi aussi. Elle est très énigmatique. Hein. Et c'est marrant parce que là, nous sommes dans l'interview des révélations. Ce personnage m'a été inspiré par quelqu'un que j'ai rencontré et dont je me demande très régulièrement si cette personne vit toujours et comment. Parce que c'est quelqu'un qui... Vous savez, parfois, on côtoie des gens pendant des années et on en garde une espèce de souvenir, voilà, un peu diffus, un peu sympathique ou un peu désagréable, peu importe, mais bon. Et parfois, certaines personnes qu'on croise 10 minutes ou 2 jours dans une vie vous marquent de manière indélébile. Ce fut le cas, et c'était à San Francisco, et j'étais là... Je squattais, vraiment, je squattais dans un squat d'artistes, des sculpteurs, des peintres à San Francisco, bon bref. Et il y avait à côté de là, c'était dans un quartier très très chaud, très chaud. Tous les soirs, il y avait l'un ou l'autre fait divers. Et il y avait un cinéma, un cinéma alternatif qui diffusait surtout du cinéma européen, qui est rare hein, aux États-Unis.
C'est parce très alternatif.
Il s'y intéresse absolument pas. Donc il y avait ce petit cinéma qui diffusait du cinéma européen. Et c'était sur le trajet, je prenais les transports en commun pour aller dans le centre, et donc je passais là tous les jours. Et puis, à plusieurs reprises, je regardais la programmation, etc. Et un jour, le monsieur qui tenait ce cinéma m'a abordé. Et nous avons discuté, et il m'a proposé une tasse de thé. Et ce monsieur, c'est Gabi. Ce monsieur m'a inspiré Gabi, parce qu'il n'est pas du tout, il n'a pas du tout la dimension fantastique du personnage, quoique, peut-être. Toujours est-il que ce monsieur, qui avait voyagé énormément en Asie, qui pratiquait l'acupuncture, qui était très, très zen, très sage, était à la fois le projectionniste, le vendeur de pralines, le vendeur de tickets de ce cinéma, et on lui permettait de loger derrière l'écran. Et on accédait je ne peux pas dire sa chambre, c'était une espèce de lit entre des tuyaux de chauffage avec une vague petite table, par une petite ruelle, et il n'y avait même pas de porte qui fermait. Et j'étais stupéfaite de ça, parce que quand même, c'est très 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 dangereux, hein, il y a des agressions tous les jours et tout. Et donc ma première surprise, ça a été de lui dire, mais vous ne fermez pas. Vous n'avez pas de porte qui ferme, quoi. Il me dit, non, ici, tout va bien, je suis protégée. Et ça m'a terriblement marquée. Et souvent, je pense à cette personne en me disant, est-ce qu'il est toujours protégé ou est-ce qu'il a été victime quand même de choses moins zen.
Mais votre personnage de Gabi est une vieille dame, elle est aveugle, si je me souviens bien, ouais. Elle joue du violon, et donc elle gagne sa vie comme ça, en jouant du violon, puis elle se réfugie le soir dans sa chambre, derrière l'écran, et le projectionniste a la gentillesse de lui dire, ah ma pauvre Gabi, peut-être que tu vas mal dormir aujourd'hui parce qu'on projette, par exemple, Blade Runner,
ouais.
Ce qui nous permet d'ailleurs de savoir d'où vient le titre du premier roman que vous avez publié. Alors là, au moment où vous écrivez ça, toutes ces, on a compris la source de ce personnage à San Francisco, mais là, vous réinventez un monde. On aura envie que, si Fellini existait encore, qu'il mette en scène, qu'il réalise cette séquence-là.
Ah, mais moi aussi, j'aurais envie. C'est-à-dire que quand j'écris ce genre de choses, je m'y plonge complètement. C'est vrai que l'écriture, contrairement à d'autres formes d'art, comme la peinture ou comme le théâtre, demande une totale immersion. On peut difficilement écrire et faire autre chose en même temps, par exemple avoir une conversation, c'est compliqué. Mais du coup, c'est une totale immersion, et effectivement, je me suis délectée de cet univers créé de toutes pièces, hein, puisqu'on là on plonge franchement dans le fantastique, hein, entre Gabi et Eli Hall qui vont voyager. Une fois qu'ils sont derrière cet écran, il se passe des choses étranges, hein, au-delà des bruits forcément assourdis du film qui est projeté. Et ça, effectivement, c'est une chose qui m'avait très fort marquée. On entend essentiellement les cris, les râles, enfin c'est ça qui sort de la bande son essentiellement, et c'est un petit peu inquiétant, surtout quand on est dans un lieu comme ça, lui aussi un peu alternatif.
Ce qui effraie d'ailleurs Eli Hall, parce qu'il est à ce moment-là en chien, ouais. Et c'est un portrait de chien extraordinaire sur lequel on reviendra pour clôturer l'entretien. Il est là en tant que chien, donc il est sur ses gardes, il est surpris puisqu'il entend des bruits sans savoir que ce sont des bruits enregistrés.
Il est là en tant que chien et il a tous les signes canins de l'instinct, de l'odorat, et il a la mission de protéger cette femme qui est la seule à lui avoir parlé déjà. Elle lui a parlé, alors que les autres êtres humains ne lui parlent forcément pas, c'est un animal. Il faut aussi dire que tous les matins, il se sent appelé à une mission, ou en tout cas, il est irrésistiblement attiré quelque part. Alors, chaque journée étant habité, ou plutôt habitant un animal différent, il va se rendre dans des endroits absolument diamétralement opposés. Hein. On traverse l'Érythrée, on se retrouve en ville, en campagne. Bon. Et là, son instinct l'a poussé à traverser des vallées, des collines, des villes, pour venir se planter face à cette vieille dame aveugle qui fait la manche en jouant du violon dans une ville où personne n'en a rien à foutre. Et il attend toute la journée devant cette vieille dame, et à la fin de la journée, elle lui parle et elle lui révèle son nom. Elle lui dit qu'il s'appelle Eli Hall. Et à partir de ce moment-là, il ne va plus la quitter. Il devient son compagnon et il va donc vouloir la protéger aussi contre ces espèces de fantômes et de voix fantomatiques qui habitent son logement. Mais on va assez vite comprendre, malheureusement, que ce ne sont pas là les vrais dangers, mais qu'il y a effectivement d'autres dangers à vaincre.
Oui, et c'est là où s'achève le premier tome, puisque Gabi encourage et pousse Eli Hall à s'enfuir et à l'abandonner, elle, aux prises à ces êtres dont on ne sait pas qui ils sont, les autres, on ne sait pas qui ils sont. Mais j'aimerais qu'on revienne, pour terminer cet entretien, parce que sinon on va raconter tout le livre finalement, oui. Sur le personnage du chien et la manière dont vous l'avez décrit. En littérature, c'est quelque chose qui est assez rare d'avoir réussi à se mettre dans la peau, dans le mouvement, dans le regard d'un chien. Virginia Woolf l'a fait avec un roman qui s'appelle Flush, qui est la référence de l'histoire racontée par un chien. Alors vous, pour cette histoire-là, pour cette écriture-là, racontez-nous dans quel état de transe vous êtes mis pour devenir un chien.
Je ne suis pas mise dans un état de transe, mais je pense que j'ai fait le contraire de l'anthropomorphisme. Effectivement, j'ai pas tenté d'amener les animaux à moi, à ma vision humaine, mais j'ai tenté moi au mieux de mes possibilités, de me glisser dans leur peau. Et effectivement, le chien, le serpent, l'oiseau,
sont la guêpe aussi.
La guêpe, hein, oui, ça c'est amusant, la guêpe, parce qu'en plus j'ai enfin, comme beaucoup de monde, je n'aime pas particulièrement les guêpes et je suis même allergique au venin de guêpe. Eh bien, figurez-vous que donc j'ai choisi une guêpe, pas par masochisme, mais justement parce que c'est un animal assez unanimement détesté ou craint. Bon, et voilà. Et depuis que j'ai écrit cette journée en guêpe, eh bien, je les regarde autrement.
Méfiez-vous parce que l'allergie ne s'est pas arrêtée. Hein.
Qui sait ? Qui sait ?
Oui, ça c'est un des effets de la littérature. Eh bien, c'est sur ce sourire que nous allons terminer cet entretien. Véronique Biefnau, je vous remercie de nous avoir parlé de votre dernier roman en date, Ellie Hall, L'Animal-Terre, paru aux éditions Myriapode. Alors c'est une maison d'édition dont on peut regretter un peu qu'elle ne soit pas assez distribuée. On va envoyer cet enregistrement à l'éditeur pour qu'il accentue la présence du livre dans toutes les librairies.
Mais en France, c'est la maison mère de distribution, c'est Pollen, mais en Belgique, je pense que c'est Caravelle. Et visiblement, plusieurs personnes m'ont dit avoir eu des problèmes pour se le procurer.
Mais disons-leur qu'il faut s'acharner parce que le livre mérite le détour, comme on dit dans d'autres maisons. Merci Véronique Biefnau.
C'est moi, merci beaucoup.
Les rencontres d'Edmond Morel.